Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort sans avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur
Jésus. En ce jour, nous fêtons la Sainte Famille. Il est bon, bien sûr, de s'arrêter sur cette institution de la famille qui paraît tant de fois encore ébranlée par notre société, entre autres. Mais essayons de comprendre combien... Tout d'abord, combien la famille est véritablement un enjeu, et un enjeu dans toute l'histoire de l'humanité, et encore ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que la famille demeure, comme nous le disait le saint pape Jean-Paul II, le berceau de l'humanité. Cette institution qui est la plus adaptée à la nature naturelle, à la nature de l'homme. Une institution totalement adaptée à la nature de l'homme. C'est-à-dire une institution intermédiaire qui permet à l'enfant, mais même aux parents, de grandir ensemble pour avant de s'exposer au monde. Nous avons besoin de ce lieu, de cette institution intermédiaire qui va nous transmettre tout ce que nous avons besoin pour vivre en société. Et on voit bien combien aujourd'hui encore, et dans l'histoire récente, cette institution est attaquée. Il faudrait même arracher l'enfant aux déterminismes familiaux, religieux et éthiques pour lui permettre d'être totalement libre, de pouvoir devenir un enfant, de rentrer dans la famille de l'humanité, de rentrer, on va dire, dans une famille nettement plus large, d'être seul face à la société, mais au moins il serait libre totalement. On voit bien comment régulièrement cette famille est attaquée alors que elle est essentielle pour nous. Et c'est le saint pape Jean-Paul II qui le disait. Quel est le berceau de l'humanité, peut-être, mais la matrice surtout, la matrice de toute personne humaine. Parce que c'est dans la famille que nous ait transmis tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous avons donc, en ce jour, à rendre grâce tout d'abord pour tout ce que nous avons reçu de nos familles, qui, loin de nous aliéner, nous aide justement à avoir une personnalité aujourd'hui. Et l'on voit bien que dans les familles, les personnalités sont différentes, et encore heureux, mais elles donnent au moins à chacun une personnalité différente pour accueillir ce monde, pour faire face à ce monde, pour garder surtout une instance critique, face aussi à ce qu'on peut entendre. Voilà. C'est la famille qui nous aide et nous soutient. Pas que la famille, bien sûr, mais elle est le berceau, nous le savons, de toute l'humanité. Alors, le saint pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, faisait comprendre que le message chrétien sur la famille avait une valeur universelle pour nous. Essayons de comprendre, de comprendre pourquoi. Et à travers ces textes que nous venons d'entendre, nous avons trois éléments finalement qui constituent toute famille chrétienne et peut-être toute famille humaine. Toute famille chrétienne d'abord quand même. La famille chrétienne, c'est celle qui va d'abord accomplir la loi du Seigneur, qui accomplit la loi du Seigneur, c'est-à-dire qui inscrit dans sa vie cette loi naturelle, la loi naturelle d'un homme, une femme, des enfants. Une loi naturelle qui est inscrite en nous, qui inscrit cette fécondité au cœur de sa vie. Je dis bien cette fécondité parce que cela dépasse la fertilité. Nous avons des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais ça ne les empêche pas de vivre cette fécondité. Cette fécondité, elle est inscrite dans le cœur de l'humanité, elle est inscrite aussi dans notre foi chrétienne. Nous le voyons avec l'histoire d'Abraham. Chaque famille reçoit en quelque sorte cette promesse de fécondité, comme Abraham et Sarah l'ont reçue, une promesse de fécondité, une promesse de faire grandir la vie, de faire épanouir la vie autour d'eux, de protéger la vie. C'est une promesse, et en accomplissant cette promesse, en ayant des enfants, ou en protégeant la vie par tous les moyens, du début à la fin de la vie, nous accomplissons la loi du Seigneur. En d'autres termes, nous établissons le règne de salut de Dieu sur cette terre par notre vie familiale. Nous essayons d'avoir un regard de salut sur les uns comme sur les autres, entre conjoints, entre les conjoints, entre les parents et les enfants, et entre les parents et réciproquement. Avoir un regard de salut. Commençons d'abord par établir dans nos familles ce règne de salut afin de le répandre sur cette terre. Accomplissons la loi du Seigneur, cette promesse de fécondité, cette fécondité spirituelle, pour que la vie puisse jaillir à nouveau dans notre monde. Donc les familles chrétiennes accomplissent la loi du Seigneur. Une famille chrétienne aussi se laisse conduire par l'Esprit Saint. Nous le voyons dans cet évangile, à trois reprises il est fait mention de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dont chaque famille chrétienne devrait être comblée. L'Esprit Saint, nous le disait le saint pape Jean-Paul II, nous amène à vivre dans l'école du don. On pourrait dire de l'offrande de soi. C'est l'Esprit Saint qui va conduire Marie et Joseph à offrir leur enfant, mais à comprendre que cet enfant est un don de Dieu, qui n'est pas un bien qui leur appartient, un don de Dieu qu'il faut offrir au monde aussi. Ce n'est pas un bien. L'enfant n'est pas un bien qui nous appartient, il faut aussi l'offrir pour le faire grandir. Être parent devient donc une responsabilité pour l'homme et la femme, pour le père et la mère. Responsabilité, car ce don qui nous est fait de Dieu, nous devons aussi lui transmettre la vie. Mais si être parent est une responsabilité, nous croyons aussi qu'être enfant est une responsabilité, car chaque enfant doit accueillir le don de la paternité et de la maternité que lui transmet, que lui donne son père et sa mère. Un don qu'il doit apprendre chaque jour à accueillir. Car tout n'est pas dû à l'enfant. Il doit aussi, lui aussi, avec responsabilité, accueillir et honorer son père et sa mère. Accueillir, donc, être conduit par l'Esprit Saint, c'est nous recevoir les uns les autres, nous accueillir les uns les autres, en tant que père, mère, en tant qu'enfant aussi. Apprendre chaque jour à nous rechoisir en famille pour mieux nous accueillir. Et c'est ainsi qu'en famille, en venant à l'Église, en participant à l'Eucharistie, c'est toute notre vie de famille que nous pourrons offrir au Seigneur, comme Marie et Joseph, par notre offrande spirituelle. Que l'Esprit Saint donc nous guide chaque jour pour offrir, pour être dans cette offrande permanente de notre vie. Enfin, la famille chrétienne, c'est celle qui grandit chaque jour dans la foi. Il y a bien sûr là une part de transmission, hein, transmission de la foi, même si nous savons que c'est particulièrement difficile, hein, de transmettre la foi à ses enfants. Bon nombre de parents nous disent qu'ils ont eu, ils ont tout fait, mais c'est parfois compliqué. Il s'agit de comprendre, quand on transmet la foi, de ne pas comprendre la foi comme une somme de connaissances et de savoir, mais comme une relation à Dieu. Être un témoin pour ses enfants de ce qui nous anime intérieurement, de ce qui anime nos paroles et nos actes. Être témoin devant nos enfants de ce bonheur de croire, de ce bonheur de vivre la foi, de ce bonheur de transmettre la foi. Voilà comment nous pourrons le mieux transmettre notre foi à nos propres enfants. Et grandir surtout. Et c'est cette foi qui nous permettra de rester dans la confiance, même aux heures difficiles. Et nous savons que Marie en vivra une difficile, puisque Siméon, en bénissant son enfant, lui dit: et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Saint Thomas d'Aquin disait que cette phrase de Siméon était à comprendre comme une deuxième annonciation. La première était celle de l'ange, une annonciation joyeuse, et la seconde, celle de Siméon, une annonciation douloureuse, pour montrer que chaque famille a sa part aussi de difficultés, de chemins de croix, qu'elle doit vivre aussi dans la foi. Car, de par notre baptême, tous nous savons d'où nous venons et où nous allons. Alors que le Seigneur, en ce jour où nous fêtons la Sainte Famille, nous comble de son Esprit, afin que nous soyons en permanence dans l'action de grâce, que nous nous accueillons les uns les autres dans notre diversité, et que surtout nous puissions offrir notre vie, notre foi au Seigneur dans le cadre de cette Eucharistie.